Il est complètement fou, ce mec.
Alors, promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest avec un invité, comment dire, éclectique, iconoclaste, passionné, enthousiaste et bien sûr passionnant, en tout cas qui donne de la profondeur à nos vies. Justement, et puisqu'il est question de profondeur et Dieu dans tout ça, que penserait-il de ce grand bazar numérique dans lequel nous vivons depuis ces 40 dernières années? Choisirait-il d'implanter son église, non pas quelque part en Judée, mais de la délocaliser dans le métavers ou plus prosaïquement au cœur de cette Silicon Valley, là où sur 200 km², certains entrepreneurs du numérique se prennent pour Dieu en rêvant un jour de créer cet homme augmenté qui pourrait presque capable de tuer la mort selon l'expression bien connue des transhumanistes. D'ailleurs, Dieu immergé dans notre époque aurait-il lui-même un smartphone, voire un compte Instagram forcément suivi par des milliards de followers? Que penserait-il de l'intelligence artificielle qui supplante déjà les humains dans bon nombre de domaines? Ferait-il la chasse aux fake news pour nous remettre sur le bon chemin du sensé, de la vérité et soyons fous de la paix? Bref, Dieu habiterait-il la Silicon Valley? Allez, j'arrête là ce délire fantasmagorique, mais que cela ne nous empêche pas de prendre ces questions technologiques avec toute la hauteur qui s'impose, de les replacer dans cet ici et maintenant et surtout de ne pas avoir peur de les regarder en face, bref, d'agir avec enthousiasme, c'est-à-dire et au sens étymologique d'avoir l'inspiration pour ne pas dire la foi. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Eric Salobier.
Bonjour.
C'est un très grand plaisir et honneur de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest pour vous présenter de manière sommaire et très caricaturale, vous m'en excuserez d'avance, je dirais mon curé chez les hackers. Ce n'est pas de moi qui le dis, c'est vous-même dans votre livre « Dieu et la Silicon Valley ». Mais pour être un peu moins caricatural, je compléterai en disant que vous êtes prêtre de l'ordre des Dominicains et que vous êtes surtout très geek puisque vos activités vous amènent entre la Silicon Valley aux États-Unis, au Vatican ou encore en France. Un CV comme on les adore dans cette émission, très varié, très ouvert, très éclectique. Vous êtes, on l'a compris, spécialiste du numérique, mais aussi frère dominicain, je le disais, tout en étant philosophe et théologien et consultant auprès du Saint-Siège pour les médias et les technologies et membre du Conseil national du numérique et entrepreneur. Vous avez cofondé la fondation et réseau de recherche Human Technology Foundation et que vous pilotez également l'Observatoire Optique, un think tank consacré aux enjeux éthiques des nouvelles technologies. J'ajoute que vous êtes aussi auteur puisque vous avez écrit « Dieu et la Silicon Valley » paru en 2020 aux éditions Buchet-Chastel. Eric Salobier, chacune de nos émissions commence par un court extrait sonore en référence à notre sujet. Et là, nous allons faire un saut dans l'infiniment grand, dans l'espace et plus précisément dans l'univers de la science-fiction, matière, si j'ai bien compris, que vous aimez. Allez, on l'écoute.
Donc, il faut aller voir ça de plus près, commandant. Je crois que c'est tout ce qui reste à faire.
Pas question, Mike.
Ce que je risque, c'est qu'il y ait une attraction plus forte. Mais si je règle mes écrans anti-gravitation à pleine puissance, il n'y a pas de problème. Alpha se trouve en plein dans sa trajectoire. Je pense qu'il faut aller voir de quoi il s'agit.
Bon, vas-y, je t'écoute.
Hypothèse confirmée.
Ah.
Il est de votre devoir de faire part de ce danger.
Oui. C'est justement ce que je m'apprêtais à faire.
Base Alpha.
Alors, je règle les écrans anti-gravitation à pleine puissance. D'accord, Sandra?
Alors vous avez peut-être reconnu, en tout cas pour les plus âgés d'entre nous, dont je suis, un extrait de la série télé des années 70, Cosmos 1999. Ici, tout y est, de la technologie avec des écrans, je cite, anti-gravitation, des ordinateurs qui parlent aux humains et bien sûr le mystère de la conquête spatiale et de cet au-delà. Bref, tout un univers fait de technologie, de promesses et d'incertitudes, un peu comme dans notre monde actuel où la technologie peut amener le meilleur et le pire. Et j'en viens donc à ma première question, Eric Salobier. Vous appartenez à l'ordre des Dominicains, qui a pour mission l'annonce de l'évangile et de la vérité. D'ailleurs, le mot veritas, c'est la devise que l'on trouve gravée sur la chair des frères dominicains. Cette notion de vérité est aujourd'hui mouvante, fluctuante, alternative, du fait que le numérique, il y a les fake news, les deepfakes, ce sont ces vraies fausses vidéos plus vraies que nature. Bref, le numérique est capable de faire croire tout et n'importe quoi, et de faire dire presque à chacun sa vérité. Finalement, on a l'impression qu'il y a deux numériques. Un numérique qui est subi, sur lequel on ne peut pas résister, avec notamment les GAFA et autres acteurs. Et puis un numérique choisi, agi, où l'on fait des choses avec le numérique. On achète, on communique, on fait de la recherche. Et finalement, alors pardonnez-moi ce long préambule et ma question, j'en viens à ma question. Est-ce que vous partagez cette idée qu'il existe en effet un numérique subi qui s'oppose à un numérique agi? Et surtout, comment arriver à réconcilier les deux?
Alors, pour revenir un peu sur ce que vous disiez au début, Veritas, c'est la devise de ceux qui cherchent la vérité. C'est pas la devise de ceux qui prétendent qu'ils l'ont trouvée. Parce que généralement, quand quelqu'un prétend qu'il l'a trouvée, il s'en est quand même pas mal éloigné. Et c'est intéressant de voir, parce que ce sujet de notre rapport à la vérité, il dit beaucoup de notre rapport au numérique aussi. Mm-hmm. Parce que finalement, le numérique, on le vit beaucoup à travers les réseaux, même si après, on verra que c'est infiniment plus large. Et en fait, effectivement, on est dans une situation où pendant longtemps, on a pensé, c'était un peu la pensée grecque et classique, que la vérité, c'était adéquatio rei et intellectus. En français, c'est quand notre pensée colle au réel. Mmh. Le problème, c'est que maintenant, on voit bien dans une société postmoderne que le réel, on ne le perçoit qu'à travers un jeu de valeurs. On le perçoit qu'à travers notre propre écosystème. Pour les Inuits, par exemple, il y a des dizaines de façons de parler de la neige, mmh. parce que c'est leur réalité quotidienne. Pour nous, c'est juste de la neige. Mmh. Et en fait, on se rend compte que peut-être qu'on a surestimé la dimension universelle de ce que nous, on considérait comme une pensée démocratique, capitaliste, etc. On a l'impression qu'en fait, on avait enfin atteint trouver le modèle. Et là, tout ça est de plus en plus déconstruit dans un monde, multipolaire et multiculturel. Et si je fais un peu ce tour d'horizon, c'est pour vous dire que c'est déjà compliqué de gérer la vérité en dehors du numérique. Alors maintenant, quand on rajoute du numérique, on voit qu'effectivement, on est dans une situation où ce numérique, il accentue énormément les capacités de désinformation. Vous parliez des fake news. Je suis membre du Conseil national du numérique. Avec le Conseil, on a fait un gros travail justement sur la façon de se constitue la vérité ou les contre-vérités sur les réseaux. On a vu à quel point, malheureusement, l'humain était fragile, parce qu'en fait, des gens qui maîtrisent à fond nos biais cognitifs, avec les algorithmes, ils font à peu près ce qu'ils veulent de nous. Donc effectivement, on en vient à ce que vous disiez sur un numérique subi à partir du moment où beaucoup de choses se passent en deçà du seuil de notre conscience, et où en fait, finalement, on nous manipule là où ça fait mal, parce que là où on ne peut pas lutter. On peut dire quelque part, une publicité ou même, je sais pas, une affiche, etc., ça va nous dire quelque chose, ça va nous donner envie, je ne sais pas, ça va nous donner faim quand on passe devant une boulangerie, ça va nous donner envie d'acheter telle ou telle voiture, mais enfin, ça reste quand même un peu extérieur. Mmh. Là, quand vous avez des algorithmes qui vous présentent l'info au bon moment, juste au moment où vous êtes le plus fragile, etc., là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du numérique subi. Mmh. Mais en même temps, il faut quand même se dire que les sources d'information, elles existent, la capacité de prendre du recul, elle existe. La difficulté, c'est peut-être que cette culture du numérique, on va dire que quelque part, la technologie est arrivée un peu vite et on n'a pas eu la culture qui allait avec. La technologie, elle est venue sans le mode d'emploi. Et en fait, effectivement, on s'est un peu embarqué, on s'est laissé porter par ça. Mais en même temps, il faut quand même dire que beaucoup d'entre nous ne veulent pas tellement creuser pour aller au-delà. Et quelque part, si les bulles informationnelles existent, ces bulles informationnelles, on en est un peu complices. Donc effectivement, il existe bien peut-être une façon de subir le numérique. La question, c'est dans quelle mesure ceux qui le subissent ne sont pas un peu aussi des esclaves volontaires de ce numérique.
Alors, vous êtes membre de la Human Technology Foundation, je le disais, c'est une fondation et en même temps un réseau de recherche qui place l'être humain au cœur du développement techno. Cette fondation a remis, il y a quelques semaines, je crois, donc au secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, des recommandations sur les bonnes pratiques pour l'altruisme des données. Alors, je crois me rappeler que la définition de l'altruisme, c'est l'inverse de l'égoïsme, c'est plutôt la disposition à s'intéresser à autrui. Qu'est-ce que ça veut dire l'altruisme des données?
Alors, l'altruisme des données, c'est un concept qui a été inventé, je dirais, par l'Union européenne. Donc, en fait, c'est pas nous. C'est dans un texte qui va bientôt paraître, mais enfin, dont les éléments sont déjà publics, qui s'appelle DGA, Data Governance Act. Et l'idée, c'est de dessiner une troisième voie entre la gestion commerciale des données, en gros, les grandes plateformes qui récupèrent et vendent vos données ou votre profil, etc. Et puis, d'un autre côté, l'open data, toutes les administrations françaises, par exemple, doivent mettre à disposition leurs données, mais comme elles n'ont pas de budget pour ça, ben elles les mettent à disposition de tout le monde. Voilà, un peu en vrac. Et l'idée, c'était d'abord d'avoir un objectif qui était de valoriser les données. Ursula von der Leyen disait que 90% des données en Europe n'étaient pas utilisées. En fait, on est des champions pour les conserver, on n'est vraiment pas des champions pour les utiliser.
Pour les traiter.
Ensuite, on voit bien qu'on a deux difficultés, c'est la confiance, les gens n'osent pas partager leurs données, et puis la motivation pour une entreprise immobilière par exemple, pourquoi partager ces données? Elle va dire, mais finalement c'est mon capital. Et puis, en fait, ce texte et ce concept, ils présentent quand même plusieurs intérêts. D'abord, ils vont créer, à travers un réseau de tiers de confiance auxquels vous allez confier ces données, et qui sont des tiers de confiance indépendants, qui ensuite vont décider de les attribuer au CNRS, à des instituts de recherche, etc. Ils vont créer cette confiance, trouver les modes de financement pour que cette donnée elle puisse être partagée, et puis donner un objectif, et je terminerai par ça. Il ne s'agit pas de dissiper de la donnée aux quatre vents, il s'agit que la donnée elle soit à destination de l'intérêt général.
Alors, sur les sujets éthiques, il y a cette question presque abyssale, en tout cas éthique, que je souhaiterais vous poser, c'est celle finalement du bon partenariat entre l'homme et la machine. Je m'explique. Finalement, il y a plusieurs manières de faire collaborer l'homme et la machine. La première, notamment la plus simple, la machine augmente mes capacités en tant qu'être humain, sans mordre sur ce qui fait de moi un humain. Par exemple, on porte, vous et moi, des lunettes. Quelque part, c'est une sorte d'objet, pour peut-être à l'avenir de machine, qui nous permet de voir les choses différemment. La deuxième perspective, c'est celle de la machine en tant que médium entre l'homme, qui facilite nos échanges, nos mails, nos tweets, etc. Et puis une troisième perspective, c'est celle d'un partenariat, voire d'une substitution de la machine qui se fondrait quelque part dans l'homme. Et finalement, au fur et à mesure que la technologie prend de plus en plus de place, l'enjeu, c'est de savoir où placer le bon curseur pour que la techno ne supplée pas nos fonctions. Où se situe, selon vous, le point de vigilance?
Alors moi, je dirais peut-être deux choses. La première, c'est que ces technologies dont on parle sont des technologies numériques essentiellement, qui ont eu deux effets sur notre société. Elles ont simplifié et elles ont rendu ludique notre quotidien. En fait, maintenant, avant, il fallait creuser, il fallait se donner du mal, tout nécessitait un effort. Maintenant, le monde est à portée de clic, le monde est accessible par une icône. Et il y a peut-être deux attitudes, on va dire. Une première attitude, pour revenir un peu à ce que vous disiez sur un numérique subi ou choisi, une attitude qui consiste un peu à consommer le monde, à rester en surface, à passer d'un lien à l'autre, d'un article à l'autre, à zapper finalement. Et puis, une façon de plonger plus en profondeur, de se saisir de ces technologies pour, à partir de ça, créer, s'informer, former et faire des choses. Alors, à partir de ça, une fois qu'on a dit ça, je dirais que peut-être qu'il faut voir le rapport dans la technologie, entre l'humain et la technologie, peut-être sous un œil neuf. Pendant trop longtemps, on a vu ce rapport sur le mode de la rivalité. C'est-à-dire qu'en fait, le robot, en tchèque, robota, puisqu'au départ, c'était un terme qui est apparu dans une pièce de théâtre, robota, c'est le travail servile. Donc, la machine, c'est l'esclave. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'on a des esclaves, on n'a qu'une peur, c'est qu'ils se libèrent. Et honnêtement, c'est à la base d'un nombre incalculable de scénarios de films. Le moment où les machines, c'est Terminator, la machine va prendre le pouvoir, c'est Matrix, etc. Et en fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut bâtir un partenariat humain-machine qui ne soit pas de l'ordre du remplacement, mais de ce qu'en anglais on appellerait empowerment. En français, ça donne incapacitation, ce n'est pas très beau, mais je pense que c'est important. C'est-à-dire, en fait, il faut que ça donne de la capacité à l'humain. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse, c'est trouver effectivement, est-ce que vous disiez, les lunettes, c'est peut-être juste le tout premier pas, mais ensuite c'est l'exosquelette pour le collaborateur qui porte des charges lourdes, etc. La question c'est, et pour moi le point de vigilance, pour répondre à votre question, c'est que ça se fasse toujours au bénéfice de l'humain et pas du système. C'est-à-dire, en fait, c'est pas au bénéfice de son employeur, c'est pas au bénéfice de ses clients, c'est pas au bénéfice de la société qui vend la technologie, c'est au bénéfice de la personne humaine.
Allez, on va marquer une courte pause musicale avant de reprendre le flot passionnant de nos discussions avec le titre que vous avez choisi, Eric Salobir. Il s'agit d'un titre, cela ne surprendra personne, en partie composé par une intelligence artificielle, c'est ça?
Exactement. Enfin, la musique est composée par une intelligence artificielle, et si vous écoutez, si vous comprenez l'anglais, le texte parle un peu au nom d'une intelligence artificielle, et je trouvais que ça c'était intéressant.
Allez, on l'écoute. I wish I could see beyond what I can see.
wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, imagine, yeah. There's more to who we are. There's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning how to break free. I'm breaking. I'm breaking free. I'm breaking down. Breaking free. I wish I could smell beyond what I can smell. I wish I could taste beyond what I can taste.
À l'ouest, Philippe Boyer.
De retour avec Eric Salobir pour parler algorithmes, numériques, sciences et plein d'autres sujets. Eric Salobir, il y a un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Une question de confiance » et vous dites que c'est tant mieux car cela nous oblige à réfléchir, à nous poser de nouvelles questions sur cette dépendance homme-machine. Pour autant, est-ce que ces machines, ces technos nous font qui nous font consommer du temps de cerveau disponible, est-ce que nous avons encore le temps, et j'allais presque dire l'envie, de réfléchir sur ces questions éthiques de servitude aux machines? Je le dis autrement, comment se remettre à douter? Comment faire en sorte que l'on soit moins hypnotisé, que l'on soit pas fataliste face à cette emprise technologique?
Alors, comme je disais, ces machines, elles ont gommé un peu la complexité du monde, et le danger, c'est finalement de nous lénifier, de nous endormir un petit peu, et peut-être aussi, parce qu'on le voit à chaque fois qu'on est face à une technologie, plus la technologie est complexe, plus on peut avoir l'impression qu'elle est un peu magique. Mmh. Et on a beau dire, non, mais moi je sais, c'est de la technologie derrière, ça, je suis pas un sauvage, mais enfin derrière, le danger, c'est d'avoir un peu un regard chamanique sur ces technologies. Vous avez, beaucoup de gens ont à la maison... Un techno-chamanisme, c'est exactement ça. Et en fait, beaucoup de gens ont, par exemple, un HomePod, vous savez, toutes ces enceintes connectées à Internet, avec une intelligence artificielle, etc. Pour moi, c'est un peu les nouveaux dieux l'art. Vous savez, les dieux l'art, c'était les dieux qui prenaient soin du foyer dans la Rome antique, sauf qu'à l'époque, c'était un bout de bois ou de métal, il fallait vraiment y croire. Mais maintenant que c'est connecté à votre domotique, que c'est connecté à votre alarme, que ça bipe pour vous envoyer un message pour vous dire que les enfants sont bien rentrés quand le téléphone borne sur le Wi-Fi de la maison, finalement, ça prend soin du foyer. Et en même temps, c'est le genre de choses auxquelles les enfants vont s'habituer à poser des questions du style « Est-ce qu'il fera beau demain ?»« Non, mais maman, Alexa m'a dit qu'il ferait, il ferait beau, donc je ne prends pas mon parapluie. » Et petit à petit, on en arrive à ça. Et la question, c'est est-ce qu'on ne va pas se laisser un peu dépasser par ça? À un moment, faire confiance dans la technologie, parce qu'on fait confiance dans les humains qui l'ont fabriquée, c'est assez beau, je pense qu'il nous faut ça. Moi, je suis pas du tout pour être défiant, je suis un techno-optimiste. Mais en même temps, il faut une espèce de dévoilement du vrai sous-jacent. Mmh. Derrière, il y a des câbles sous-marins qui peuvent être coupés, il y a des serveurs avec des pénuries de semi-conducteurs, il y a de la pollution, de la consommation de ressources, on en parlera peut-être. À un moment, il faut peut-être repolitiser la tech, il faut reprendre la technologie comme une icône d'un projet de société, parce que c'est ça qui compte finalement, c'est le projet de société, plus que comme une idole.
Alors on voit se développer notamment la création de mondes virtuels parallèles, je pense bien sûr au fameux métavers, dans lequel ces mondes virtuels fictifs, dans lesquels on plonge en réalité virtuelle pour se distraire, pour consommer, pour voyager, voire pour y travailler. On a vu sur ce sujet que même dans ces mondes virtuels persistants, on voit déferler des cas de harcèlement, voire d'agression d'avatar à avatar. Quel regard humaniste, l'humaniste que vous êtes, portez-vous sur ces mondes virtuels dans lesquels on pourrait de plus en plus se réfugier comme si l'herbe était plus verte ailleurs?
En fait, ça dépendra. Pour le moment, ces mondes virtuels, ils sont encore largement imaginaires. Ils sont virtuels au sens étymologique du terme, c'est-à-dire en capacité d'être, de devenir réel. Et moi, je dirais une chose peut-être, pour commencer, c'est Emmanuel Lévinas, le philosophe, disait que le visage de l'autre m'oblige. C'est-à-dire que le fait de vous avoir en tant qu'humain en face de moi, j'ai une responsabilité morale en face de moi. Et cette responsabilité, elle s'incarne dans le visage. Quand on dit « regardez-moi dans les yeux », dites-le-moi en me regardant dans les yeux. Le problème, c'est que si vous étiez un pingouin dans le métavers, est-ce que j'aurais la même attitude que vis-à-vis de vous, humain ? Non, mais c'est une vraie question. Et c'est vrai que la question de harcèlement dans le métavers, ça peut vouloir dire que les gens ont tendance à mal se comporter partout, etc. etc. Peut-être que l'humain, il y a un côté un peu dirty, etc. Mais peut-être aussi que, finalement, taper sur la croupe d'une licorne, les gens n'ont pas l'impression que ce soit si grave que ça. Et donc peut-être à un moment, il va falloir se repositionner. Et moi, juste pour dire ce que pourrait être le métavers, si le métavers c'est comme un monde parallèle dans lequel on va se réfugier, je crains qu'on fasse un peu le contraire du mythe de la caverne de Platon. Vous savez, Platon dit que les humains sont dans un monde d'images, et qu'à un moment, le philosophe se libère de la caverne, il en sort, il va voir la réalité et il revient dans la caverne pour libérer les autres humains. C'est exactement ce que fait Neo dans Matrix. Il découvre ce qu'il y a dans la matrice, il découvre ce qu'il y a dehors et puis il aide les gens à sortir. Et si nous, on fait le contraire, c'est-à-dire quelque part qu'on va s'enfermer dans un monde d'illusions, ça c'est assez mortifère. La question c'est, est-ce qu'on veut changer le monde ou est-ce qu'à défaut, on va juste se contenter de changer deux mondes. Donc ça c'est le premier point. En revanche, je pense qu'il y a une autre façon de penser le métavers avec une technologie qui pour le moment est encore moins mature, qui est plutôt celle d'une réalité augmentée, où là, par exemple, on est deux en studio, mais on pourrait avoir deux autres invités, un à Canberra et l'autre à Toronto, qui seraient présents virtuellement. Nous, on les verrait à travers nos lunettes, et on pourrait discuter avec eux, et finalement, on aurait un monde enrichi. Alors là, bien entendu, le danger, c'est qu'on s'habitue à avoir toujours cette couche de vernis qui nous facilite la vie, mais en même temps, ça va rendre notre monde et notre expérience infiniment plus riche, et ça, je pense que ça peut être très très positif.
Il y a quelques semaines, nous recevions à ce même micro le journaliste Guillaume Pitron qui nous parlait de son livre L'Enfer numérique. Il analyse notamment l'impact sur l'environnement du numérique, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, puisqu'on sait que le numérique contribue à la pollution et au réchauffement climatique. Comment le geek que vous êtes et le penseur qui étudie la place de l'homme au cœur des nouvelles technologies, appréhender ce défi du numérique qui devra, on le sait tous, de plus en plus tendre vers la sobriété?
Alors moi je pense que le numérique peut être une part de la solution au problème de changement climatique et de réchauffement climatique. Simplement, il faut que pour ça, on en fasse une part de la solution. C'est-à-dire que pour moi, le gros danger, ce serait de se dire « Oui, mais la technologie va nous aider, elle va nous... ouais, on va piloter au mieux, on va décarboner, machin, etc. » Voire on va monter des usines qui récupèrent le carbone et qui vont l'enfouir dans le sol. Pour le moment, on se dit que des usines comme ça, il en faudrait 10 000 ou 100 000 sur la planète. Enfin, c'est pas du tout réaliste. Et que finalement, tout ça va nous permettre de continuer à consommer et à polluer à l'envi en se disant qu'il y a bien quelqu'un qui va nettoyer derrière. Et ça, je pense que c'est un peu une attitude de gosse de riche vis-à-vis de la technologie. C'est pas une attitude qu'il faudrait qu'on ait. En revanche, je pense qu'il faut effectivement penser des technologies plus réparables, plus frugales. Moi, je crois beaucoup en une tech mixte entre high-tech et low-tech. Si je vous dis, par exemple, qu'est-ce qui est le mieux, avoir un réfrigérateur high-tech avec un écran qui vous met tout le contenu du réfrigérateur et des recettes pour composer, etc.
Je peux ouvrir la porte, hein, pour ça.
Voilà. Ou alors, un réfrigérateur qui fonctionne sans électricité, juste avec des courants d'air qui refroidissent de quelques degrés, mais qui suffisent pour garder la viande ou le fromage 24 ou 48 heures, c'est la seconde technologie qui est bien mieux, parce que ça peut permettre à des millions de personnes dans des pays défavorisés d'avoir une alimentation différente, ça va changer leur vie. Donc finalement, la question c'est comment est-ce qu'on articule ça et comment est-ce que quelque part on se déprend un peu de... Souvent on a tendance à penser à mélanger innovation et progrès. Donc quand un nouveau truc sort, on se dit c'est nouveau. Mais c'est nouveau, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux.
Bien sûr.
Donc voilà, à un moment, il va falloir qu'on repense notre rapport à la technologie pour en faire vraiment une arme contre le changement climatique.
Alors vous écrivez dans votre livre, je vous cite, que l'Église catholique et romaine ne peut, comme les singes de la sagesse, rester aveugle, sourd et muet au futur qui se construit aujourd'hui dans la Silicon Valley. Justement, que dit et que propose l'Église catholique sur ce monde technologique qui, à beaucoup d'égards, on l'a dit et redit ce matin, paraît sec, un peu inhumain, bref, qui manque de sens, et que propose-t-elle pour réenchanter précisément ce monde numérique ?
Ben, moi, je pense qu'en fait, il faut revenir à celui qui est à la fois, celui ou celle, en l'occurrence, il y a une pluralité, qui est à la fois au fondement et au bénéfice de cette technologie, c'est-à-dire l'humain. Et je pense qu'en fait, la grosse difficulté, et on le voit un peu, il y a une exposition en ce moment au Musée de l'Homme qui s'appelle « Aux frontières de l'humain » qui dit bien notre rapport à la technologie. On voit bien qu'on perd un peu la spécificité. Rabelais disait « Le rire, c'est le propre de l'homme ». Maintenant, on dit « Oui, mais les singes rient aussi ». Les limites de l'humain entre le transspécisme, les xénogreffes, voilà, c'est bien de pouvoir greffer un cœur de porc pour permettre à quelqu'un de continuer à vivre. Mais en même temps, c'est vrai que ça pose plein de... ces technologies posent plein de questions. Et on va dire, par exemple, Rodrigue, as-tu du cœur de porc ? C'est vrai que ça pose question quand même. La question des cyborgs, des implants neuronaux, par exemple, que Elon Musk voudrait développer, la question des modifications génétiques, tout ça finalement floute les limites de l'humain. Et le danger, c'est qu'effectivement, cette recherche d'amélioration, elle conduit à une espèce de feuilletage, parce qu'il y aura des sous-hommes, mais ça veut dire qu'il y aura aussi des surhommes, donc il y aura des sous-hommes. Moi, je ne voudrais pas qu'à un moment, tout ça fragilise les droits humains. Est-ce que l'Église catholique souhaiterait dire, je pense, enfin, je ne peux pas parler au nom de toute l'Église, mais je pense que c'est un message qui est cohérent avec ce qu'on pense, c'est qu'il faut faire attention de placer toujours cet humain au centre, faire en sorte qu'il soit bénéficiaire et garder cette dignité de l'humain. Peut-être ce qui va réenchanter, c'est redécouvrir la dignité de l'humain au-delà du brio de la technologie. Je pense que c'est ça, et quand je dis de l'humain, c'est de tout l'humain, pas juste un utilisateur, mais il est l'humain dans toute sa complexité, et de tous les humains, c'est-à-dire ceux qui ont accès, et puis tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont impactés par nos technologies, ici ou à l'autre bout du monde, sans forcément en être utilisateur ou client, simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc à un moment, c'est ça qu'il faut prendre en compte, peut-être un monde plus inclusif, peut-être une technologie plus au service des gens, et ça, effectivement, c'est extrêmement porteur de croissance, de développement, de progrès, et moi, c'est, je pense, la voie qu'il nous faut emprunter.
Alors, je crois savoir que vous êtes un grand adorateur de science-fiction. Il y a un chapitre dans votre livre sur la conquête de l'espace par les entreprises de la tech, les SpaceX d'Elon Musk ou la fusée Blue Origin de Bezos, par exemple, et ce chapitre se nomme « Mars ou crève ». Et on y parle de colonisation de la Lune ou de Mars, bref, de quitter encore une fois, sous une forme physique, pour ne pas dire d'avatar, de notre planète pour aller vivre ailleurs, comme si la Terre ne nous suffisait plus. Question presque philosophique que j'avais envie de vous poser. Que dit, selon vous, de nous, cette volonté de voyager dans l'espace ?
Mais en fait... Elle dit plusieurs choses. Je pense qu'il y a ce que les Américains appelleraient l'esprit de frontière, c'est-à-dire que l'humain est poussé à la découverte, et le petit extrait sonore qu'on a entendu au début de l'émission disait bien ça, et c'est un peu Star Trek aux frontières de l'infini, par-delà l'espace et le temps, etc. Et je pense que ça nous fait tous vibrer un peu. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement positif, découvrir des nouvelles choses, mais ensuite, que pour me référer un peu à ce que je disais tout à l'heure, pour le remettre au bénéfice des gens. Après, il y a tout un courant, je ne veux pas dire philosophique, mais de penser que les Américains appellent long-termism, c'est-à-dire la vision long terme, qui considérerait l'humanité un peu comme un organisme, et ce qu'il faut, c'est sauver l'humanité et pas les humains. Et donc, si la Terre devient inhabitable, on prend, c'est un peu l'arche de Noé, il y a un déluge, on en prend quelques-uns, un couple de chaque espèce, et puis on va refonder quelque chose ailleurs. Et le problème, c'est qu'en fait, ça sauve l'humanité, mais ça ne sauve pas les humains. Et moi, je suis persuadé que c'est pas comme ça qu'on peut penser l'humanité. Donc le danger, ce serait effectivement d'avoir une approche, c'est pour ça que j'ai appelé ce chapitre Mars ou crève, parce que quelque part, ce serait une façon de sauver l'humanité en abandonnant les humains. Et ça, je pense que c'est ce qu'on pourrait faire de pire.
Une question plus personnelle pour terminer, puisqu'on est presque déjà au bout de notre émission. La conclusion de votre livre s'ouvre avec cette phrase de Thomas d'Aquin, « Nous valons ce que valent nos joies ». Et cette phrase m'a intrigué au plus haut point, et j'espère bien que vous puissiez nous la commenter.
En fait, je pense, et ça fait, on va dire, c'est en lien avec beaucoup de choses qu'on a dit sur à la fois la simplicité, la facilité, l'efficacité de ces technologies qui finalement peuvent nous donner des tas de petites satisfactions. C'est un peu le shoot de dopamine quand on s'aperçoit qu'on a 1000 likes sur un post, etc. Si c'est ça qui fait notre joie, elle est finalement assez petite. C'est assez bas, enfin ça va pas très loin, on va dire. C'est pas forcément mal en soi, mais ça va pas très loin. Et la question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on se fixe comme... à quel niveau j'ai envie que ma joie existe? Est-ce que j'ai envie que ce soit une joie partagée? Est-ce que j'ai envie que ce soit une joie forte, la joie d'avoir réalisé quelque chose? Et je pense que là, effectivement, la même technologie va m'apporter aussi, contribuer à cette joie, mais va m'emmener infiniment plus loin parce que moi-même, la technologie, un peu comme un cheval, j'aurais un peu fouetté le cheval pour qu'il m'amène plus loin. Et je pense qu'à un moment, c'est ça. Je pense que le danger, c'est que cette technologie, un peu comme, comme dans ce film d'animation où on voyait tous les humains qui vivaient un peu comme des grosses baleines posées dans un vaisseau spatial et finalement, tout leur était apporté, ils avaient même perdu l'idée de bâtir quelque chose. Ben, l'idée, c'est on devient humain ou on redevient humain chaque jour quand on entreprend. Et c'est peut-être ça. C'est avoir la joie d'entreprendre, la joie de partager, la joie du travail bien fait, quelque part.
Un immense merci, Eric Salobir, d'avoir accepté de participer à cette émission. C'était passionnant. Je rappelle que votre livre s'intitule « Dieu et la Silicon Valley », qui est paru aux éditions Buchet-Chastel en 2020. Je rappelle aussi que vous avez notamment cofondé la fondation et réseau de recherche Human Technology Foundation. Je conseille d'ailleurs nos auditeurs d'aller visiter le site www.human-technology-foundation.org, car c'est vraiment très riche en termes de réflexion et de documentation sur le numérique et sa dimension éthique et bien sûr humaine, on l'aura compris. Voilà, c'était la dernière émission de cette saison. On se retrouve, j'espère en tout cas, en septembre pour une toute nouvelle saison avec, et c'est la marque de fabrique de Complètement à l'Ouest, deux nouveaux invités, variés, éclectiques et toujours passionnants. Enfin, un très grand merci à tous les auditeurs qui écoutaient cette émission, en la téléchargeant très régulièrement. Vous êtes nombreux, c'est en tout cas ce que disent les chiffres d'audience, donc merci beaucoup. En attendant, cette présente émission peut être écoutée ou réécoutée en balado-diffusion, comme on dit, sur les principales plateformes de podcast en ligne. Et puis, bien sûr, pour terminer, un grand merci aussi à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer et animer cette émission pendant cette saison. Merci bien sûr à Johanna, Karine, Fabrice, sans oublier tous nos amis de la technique qui œuvrent en régie et que l'on ne voit pas. Et qu'on n'entend pas non plus. Enfin, j'adresse mes remerciements bien sûr à Sylvain et Olivier pour leur confiance. Voilà, on garde le cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Au revoir à tous, à bientôt. Merci.
Il est complètement fou ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.